Le Monde Décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
Salut! Lors de notre précédent podcast, nous étions en Inde, vers moins 500, et Bouddha nous expliquait l'importance du contrôle de ses désirs et d'une certaine forme de détachement pour atteindre la sagesse et le bonheur. Et bien cette semaine, nous allons parler d'un personnage bien différent, d'une certaine manière à l'opposé de Bouddha. Il n'a cessé de vouloir développer son empire, et grâce à sa volonté, son audace et son intelligence aussi, il est devenu l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité alors qu'il n'a vécu que 32 ans. Il s'agit d'Alexandre le Grand. C'est donc en Grèce, plus précisément en Macédoine, et vers moins 322, que ce podcast nous emmène. À cette époque, les principaux empires qui règnent sur le monde sont les Grecs, les Perses, les Romains, qui montent en puissance, et enfin les Carthaginois et les Chinois. Nous reviendrons évidemment sur les Romains et les Carthaginois, mais d'ici là, partons faire la connaissance de Roxane, une princesse perse devenue l'épouse d'Alexandre et qui a participé à la création de ce gigantesque empire. C'est parti ! Bonjour Roxane, enchantée.
Bonjour Léa, tout le plaisir est pour moi.
Roxane, peut-être pouvez-vous commencer par nous expliquer qui était Alexandre avant de devenir Alexandre le Grand et comment tout a commencé ?
Je ne le connaissais pas encore à cette époque, mais Alexandre est dit avoir fait preuve dès son plus jeune âge d'une grande force de caractère, de beaucoup d'assurance et de courage.
Auriez-vous par hasard une petite anecdote à nous raconter sur son enfance ?
Oui, bien sûr. Ma préférée est celle qu'on m'a racontée sur le jour où Alexandre a choisi son cheval. Un marchand s'était présenté à la cour de son père, le roi Philippe, avec plusieurs chevaux, dont un très bel étalon à la robe foncée, qui se nommait Bucéphale. Il était, semble-t-il, magnifique, mais ne se laissait approcher par personne. Philippe ne voulait donc pas l'acheter, jusqu'à ce qu'Alexandre intervienne, lui disant d'acheter ce cheval. Que si les autres n'arrivaient pas à le monter, c'est parce qu'ils ne savaient pas s'y prendre et qu'ils étaient des incapables. Alexandre n'avait que 12 ans, mais il dégageait déjà une telle assurance que son père décida de lui faire confiance.
Il faut quand même une sacrée confiance en soi pour penser mieux maîtriser que les professionnels. Et il a réussi à dompter le cheval ?
Alexandre se serait ensuite approché doucement du cheval, aurait pris les rênes et lui aurait tourné la tête vers le soleil. En fait, il l'avait bien observé et avait compris que le cheval était effrayé par la vue de son ombre, grande masse sombre devant ses yeux qui suivait tous ses mouvements. Une fois face au soleil, le cheval se serait calmé. Alexandre lui aurait parlé et aurait fini par l'enfourcher. Et depuis, Bucéphale est la monture favorite d'Alexandre.
C'est sûr que cela démontre une fameuse force de caractère et un fameux aplomb.
Oui, je n'ai pas assisté à la scène moi-même, mais cela illustre bien ce que je connais de mon Alexandre.
Et comment est-il ensuite devenu Alexandre le Grand ?
C'est en moins 336 que tout a vraiment commencé. Son père a été assassiné, et Alexandre est devenu roi de Macédoine, à seulement 20 ans. Il a hérité d'un royaume puissant et bien organisé, qui était déjà devenu la première puissance militaire de la Grèce antique.
Waouh ! Il était vraiment super jeune.
C'est vrai, mais Alexandre était déjà un stratège militaire brillant, et surtout il avait soif de conquête. Il n'a donc pas traîné. Même si l'armée de Macédoine était puissante et expérimentée, il a directement compris qu'il était clé pour lui de garder le soutien des autres cités-états grecques. Son père Philippe avait en effet réussi à vaincre les deux grandes cités, Athènes et Thèbes, et a ensuite imposé une paix et une coopération entre les cités, sous sa domination.
Donc quand il est monté sur le trône, il n'était pas seulement roi de Macédoine, mais déjà commandant de tous les Grecs.
Ce n'est pas si simple. À la mort de Philippe, Athènes et Thèbes ont d'abord refusé de renouveler leur alliance avec ce nouveau roi, si jeune. Mais Alexandre a pris quelques mesures très dures, comme faire tuer quelques rivaux, et a réussi à s'imposer lui aussi à la tête de cette coalition grecque, dans le but d'envahir l'Empire perse.
Ah oui, quand même. Il était jeune, mais on va dire déterminé.
Et c'est comme cela que 2 ans seulement après son accession sur le trône de Macédoine, il a lancé une série de campagnes militaires vers l'est, vers l'Empire perse. À cette époque, les Perses, alors dirigés par Darius III, étaient la principale puissance de la région. Leur influence s'étendait de l'Asie mineure à l'Égypte. Ses premiers combats et ses premières victoires ont été contre l'Empire perse, en Asie mineure et en Syrie. Et puis, il n'eut de cesse de conquérir des morceaux de l'Empire perse, dont l'Égypte, jusqu'à une bataille décisive, la bataille de Gaugamélèse, en -331, qui a été le début de la fin pour Darius III. Après cette bataille, Alexandre a pu tranquillement marcher vers Babylone, l'une des plus grandes et des plus célèbres villes de notre époque, qui lui a ouvert ses portes sans résistance.
Mais Alexandre ne s'est pas arrêté là.
Et non. Il a continué à marcher vers l'est, vers Persépolis, qui était la capitale de l'Empire perse achéménide. Il l'a facilement capturée, puisque Darius III et la plupart de ses généraux avaient fui, laissant la ville presque sans défense. Il a donc triomphalement marché dans la ville. Il faut te dire qu'à ce moment, Alexandre avait déjà un royaume qui s'étendait de la Grèce à l'Égypte et à la Perse.
Mais si je vous entends, je crois comprendre qu'il ne va pas s'arrêter là.
Encore une fois, non. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance et que je l'ai épousée. Je suis une princesse issue de la noblesse perse et notre union symbolisait l'unité entre la Macédoine et la Perse. Cela permettait de consolider les alliances et d'assurer une certaine stabilité à cet immense empire. Par ailleurs, j'ai tout de suite été sous le charme de sa force de caractère et de sa volonté. Par la suite, nous avons poursuivi le désir d'Alexandre de pousser vers l'Est et continuer les conquêtes. Je l'ai accompagné lors de toutes les campagnes militaires, y compris dans l'expédition vers l'Inde. Nous avons été aussi loin que l'Indus. C'était dur, très dur même. Mais nous remportions des victoires. Mais un moment ce fut de trop pour les troupes. Elles furent à bout. Leur morale commença à décliner, et elles ne voulaient plus poursuivre. Alexandre, lui, voulait continuer. Mais il dut céder et écouter ses armées. Nous avons donc dû faire demi-tour et rentrer à Babylone. À ce moment, l'Empire était immense, il s'étendait de la Grèce jusqu'à l'Inde, formant le plus vaste jamais connu. Et Alexandre avait atteint un de ses objectifs, unifier l'Orient et l'Occident.
Impressionnant! Que de victoires militaires et quel empire! Mais quel impact ces conquêtes ont-elles eu sur la vie des gens?
La vision d'Alexandre était de réunir l'Orient et l'Occident. Ce qu'il réussit à faire. En créant un seul empire, mais aussi en ouvrant des routes commerciales, favorisant les échanges culturels et économiques entre les deux régions. Et s'en est suivie une fusion des cultures grecques, perses, égyptiennes et indiennes. Ces échanges ont favorisé l'innovation et les progrès. Grâce à cela, nous connaissons une période de progrès important, caractérisée par des avancées dans l'art, la science et la philosophie.
Donc si je comprends bien, son objectif n'est pas seulement militaire.
Oh non. Alexandre est un homme exceptionnellement éduqué, formé par le célèbre philosophe Aristote. Son professeur a nourri son esprit avec la philosophie grecque, la science et la politique. Ce qui fait de Alexandre le grand chef qu'il est. Et son objectif est aussi de diffuser la culture.
On peut dire que c'est un succès. La culture grecque a rayonné bien au-delà de ses frontières, et ce pour très longtemps. J'ai aussi entendu parler de la ville d'Alexandrie. Pouvez-vous nous en dire plus?
Il a en fait créé de nombreuses villes dans les régions conquises, villes qu'il nomme souvent Alexandrie. Ces villes servent de centres culturels et économiques, favorisant les échanges entre les différentes parties de l'Empire. Mais tu fais certainement référence à la plus célèbre d'entre elles, en Égypte. Elle a été conçue sur base de concepts architecturaux innovants et mêle les styles grecs et locaux. Elle a eu une influence importante sur l'urbanisme et est entre autres célèbre pour son phare, à l'entrée du port, qui est une des sept merveilles du monde antique, et pour sa bibliothèque, une des plus grandes du monde antique.
Donc Alexandre n'est pas seulement un grand chef militaire, il est aussi très intéressé par les arts et la culture.
Et comment ? La philosophie en particulier lui tient très à cœur. Il faut dire qu'il a été baigné par les paroles de Aristote depuis son enfance. Tiens, toi qui aimes les anecdotes, je pourrais te raconter la rencontre mémorable entre Diogène le Cynique et Alexandre.
Avec plaisir, je ne suis jamais contre une petite anecdote.
Alexandre avait beaucoup entendu parler de Diogène, ce philosophe connu pour rechercher la simplicité et rejeter le luxe et les besoins matériels. Il prône d'ailleurs tellement une vie simple qu'il vit dans un tonneau. Bref, Alexandre tenait vraiment à le rencontrer et se rendit à Corinthe, où vit Diogène. Diogène était dans son tonneau quand Alexandre est arrivé, et Alexandre, impressionné par la renommée de Diogène et son côté excentrique et audacieux, lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Diogène, fidèle à son style de vie minimaliste, lui a juste répondu « Ôte-toi de mon soleil ». C'était à la fois surprenant et amusant, et révélait tout le contraste entre ces deux personnages. L'un, puissant, conquérant, redouté et au sommet de sa gloire, et l'autre, détonnant par sa simplicité et son détachement, et ne souhaitant rien d'autre que profiter du soleil.
C'est marrant, Diogène me fait penser à Bouddha qui prône la simplicité et le détachement, alors qu'effectivement, Alexandre semble assez loin de ses idées.
Oui, même si la philosophie a toujours été très importante pour lui. Mais c'est vrai que c'est une personnalité empreinte de démesure et que sa volonté de conquête est plus forte que tout.
Merci Roxane pour votre éclairage et vos anecdotes.
Avec plaisir Léa.
Pour mes auditeurs, Alexandre mourut très jeune, à l'âge de 32 ans, d'une forte fièvre. Il restera dans l'histoire comme l'un des plus grands conquérants de tous les temps. Il réussit à conquérir et à unifier un très vaste empire, partant de la Grèce et s'étirant vers l'Est jusque l'Inde. Ce territoire incluait finalement assez peu de pays européens, mais incluait l'actuelle Égypte, la Turquie, la Syrie, l'Iran, etc. Malheureusement, après sa mort, Roxane et son très jeune fils, né après sa mort, furent assassinés, et son empire fut partagé entre ses généraux.
Il fut démantelé pour toujours, et s'ensuivra sur le plan politique une période de guerre et de division, et la fin progressive de la domination grecque, créant des opportunités pour d'autres royaumes. Cette période est appelée la période hellénistique. Elle vit l'expansion et la montée en puissance de l'Empire romain, très influencée par les Grecs d'ailleurs. Sur le plan culturel, cette période sera marquée par des progrès architecturaux, le développement des arts et le rayonnement de la culture grecque. Nous parlerons bien entendu du Grand Empire romain lors de plusieurs podcasts à venir. Merci pour ton écoute et pour ton attention, et à très vite !